Le musée de Mora et son exposition temporaire Grenzen Frontières vous présentent
le Rendez-vous Culture.
Rendez-vous Culture présenté aujourd'hui par Laurent Michel et votre invité n'est autre que Jean Gréchez. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Caroline. Oui, Jean Gréchez, cela vous dit peut-être quelque chose, non? Un spécialiste éminent de la question de la famille et de l'enfant. En tout cas, il est à Fribourg présent, puisque l'Office familial de Fribourg, en partenariat avec la Fondation Astram, propose une série de conférences ayant comme thématique centrale l'enfant, sa place face au deuil ou dans la séparation. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jean Gréchez, qui a récemment donné une conférence sur le thème « Quand les parents se séparent, la place et la parole de l'enfant ». Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes psychanalyste de couple et de famille, médiateur familial, spécialisé sur les questions de maintien de la relation enfant et parent en situation de séparation. Vous êtes en exercice depuis 1987. Aujourd'hui, face à un couple qui se sépare, dans quelle situation se trouve projeté l'enfant, mais dans quelle situation aussi se trouve projeté le couple ?
Tout d'abord, je pense que ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est qu'un couple qui se sépare, c'est d'abord de la souffrance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le courant actuel de la société a tendance à banaliser la souffrance, à banaliser le... On dit que quasiment un couple qui reste ensemble, c'est presque un couple anormal. Hein, on arrive un peu à cette extraordinaire contradiction. Mais ce qu'on peut voir, c'est que il y a tout un courant actuel qui tend à banaliser, à précipiter les procédures de divorce et de séparation. Et ce que je peux voir, moi, dans ma consultation de couple et de famille, c'est que ça ne correspond en rien à la souffrance qui est exprimée par les adultes, mais aussi par les enfants.
Est-ce que, justement, cette souffrance individuelle que je ressens chaque adulte face à la séparation par l'enfant reste encore quelque chose de tabou ? Il est difficile pour la plupart d'exprimer cette souffrance ?
Mais c'est-à-dire que, d'abord, il n'y a pas beaucoup de lieux où on peut exprimer sa souffrance. Et puis, deuxièmement, on se retrouve dans... Alors, est-ce qu'elle est tabou, la souffrance ? Non, mais je veux dire qu'à côté de... Je ne pense pas que la souffrance soit tabou, mais par contre... La reconnaissance de sa souffrance, c'est quelque chose qui va un peu en contradiction avec ce que je disais, c'est-à-dire le courant actuel qui est de dire, par souci de rentabilité, de banalisation, par souci d'efficacité, qui est un peu contraire. Aujourd'hui, les juges essayent de raccourcir les procédures de divorce et essayent de diminuer l'expression du conflit, mais ça ne correspond pas avec ce que les gens vivent par eux-mêmes. Quoi, voilà.
L'enfant, justement, puisque c'est un peu la thématique actuelle, dans quelle situation est-il face à ses parents qui se divorcent? On peut imaginer qu'il y a divers sentiments. Il y a un sentiment de loyauté, de peur d'être abandonné, de peur de ne plus être aimé. Comment vous, qui en recevez passablement, qu'est-ce que vous constatez?
Mais ce que je constate, c'est que l'enfant, lui-même, il souffre de ce qui se passe. Alors, à la fois, il est tiraillé entre deux sentiments. Il faudrait que cette souffrance, ce conflit qui s'exprime, se cesse. C'est-à-dire qu'il faudrait vite, vite qu'il soit au calme. Et à côté de ça, lui, il doit faire avec ses deux parents, les deux parents qu'il aime par ailleurs. Mais quelque part, c'est compliqué pour lui de continuer à se sentir aimé par les deux. Donc, si jamais je dis ça, est-ce que mon papa va continuer à m'aimer? Si jamais je dis ça, est-ce que ma mère va continuer à m'aimer? Et donc, à partir de là, l'enfant, il est confronté à tout ça. Et souvent, on voit des choses dont je profite de l'occasion pour en parler. On voit se met en place un processus inconscient, un processus psychique inconscient. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qu'on appelle, nous, le conflit de loyauté. C'est-à-dire que l'enfant est pris dans des loyautés, et à partir de là, il faut savoir que, comme toute personne, hein, vous, moi, n'importe qui, on adapte notre parole à ce qu'on croit que les gens peuvent entendre.
Est-ce que c'est justement une situation que l'on rencontre aujourd'hui dans une société où on a justement envie de protéger, parfois de surprotéger l'enfant dans une, oui, dans une problématique de séparation? On veut l'entendre par le juge, on veut essayer de lui éviter le plus possible. Est-ce qu'au contraire, ça pourrait le mettre dans une situation qui est désagréable?
C'est-à-dire que plus l'enfant vient prendre une place qui n'est pas la sienne, c'est-à-dire vient prendre parti, vient amener sa parole et est entendu par un juge, par exemple. L'autre jour, à la conférence, il y a une juge qui est venue me demander, me dit, mais ce que vous dites, c'est un peu contradictoire avec ce que prévoit la loi. La loi prévoit aujourd'hui que l'enfant doit être entendu. Alors, peut être entendu, doit être entendu, il y a des nuances suivant les lois, mais par exemple, et ce que je lui disais, mais il y a une grosse différence, parce que la loi prévoit aussi qu'il peut être entendu ou qu'on peut entendre ou faire entendre la loi, l'enfant. Donc, mais là, il y a une grosse différence entre entendre l'enfant, si c'est le juge qui l'entend, le juge qui va juger du divorce des parents, ou si on le fait entendre pour que sa parole soit entendue par quelqu'un, par un professionnel autre que celui qui va juger du divorce. Donc à partir de là, j'expliquais que pour moi, ce qui était important, c'était le décalage, que cette parole soit décalée de la procédure. La tendance serait que on mette l'enfant dans une place qui n'est pas la sienne, et quelque part, même si on lui va lui dire, on va prendre des précautions d'usage, de dire que c'est pas lui qui va décider de là où il va vivre, avec qui il va vivre, etc. Malgré tout, à partir du moment où sa parole est entendue par celui qui va juger, on va quand même le précipiter dans une espèce, ce que j'expliquais pour moi, c'est lui donner la parole sous prétexte et avec quelque chose de tout à fait
bienveillant,
qui est de dire comme ça, il va pouvoir dire, etc. On rentre un peu dans un culte aujourd'hui qui est le culte de la transparence, le culte de... Mais sauf qu'on le met à une place qui n'est pas la sienne. Et si on le met à cette place-là, on le met à égalité avec le parent. Sauf que ce qu'on oublie, c'est que, sa parole, comment il va vivre? Est-ce qu'il va pas se sentir comme trahissant l'un des deux parents, ou donc déloyal avec l'un des parents, ou bien trop loyal avec l'autre parent? Donc, quelque part, on le met dans une position qui est différente. Et surtout, on vient annihiler un élément très, très important pour ma part, de la construction de l'enfant, c'est que l'enfant reste l'enfant, le parent reste le parent. Donc, on vient annihiler la différence générationnelle. Si on vient gommer cette différence-là, on vient mettre l'enfant dans une position de toute puissance, et surtout, on va mettre le parent dans une impossibilité à poser, de se poser en termes d'autorité.
Et ce genre de, justement, de comportement, quoi, d'attitude, de situation, quels sont les comportements que peut avoir après l'enfant, et quelles sont les conséquences?
Dans ma consultation de famille, par exemple, je suis de plus en plus interpellé par des familles, par des parents, qui me disent, aujourd'hui, on n'arrive plus à maîtriser notre enfant, on n'arrive plus à le canaliser. Alors ça va se traduire par des comportements d'opposition chez le petit enfant, mais qui va être des positionnements excessivement durs. On a des enfants aujourd'hui qui sont dans des positions excessivement dures, mais on a chez des adolescents qui passent à la limite de la violence avec leurs propres parents, avec tout ce que ça veut dire, comme parce que, quelque part, on vient gommer le fait qu'on a plus l'autorité. L'autorité, c'est quand même une construction très très importante qui permet aux gens... Autorité, ça vient de ogere, en latin, qui veut dire grandir. L'autorité, c'est ce qui aide à grandir. C'est pas du tout quelque chose qui empêche de grandir.
Vous qui êtes un professionnel et qui recevez régulièrement, que préconisez-vous en fait aujourd'hui? Comment est-ce que vous travaillez avec des enfants, avec des familles, avec des enfants plus particulièrement qui viennent chez vous?
Quand je reçois une famille avec des enfants ou des adolescents, mon principal souci, ça va être de permettre à l'enfant de parler, mais surtout de ne jamais gommer l'autorité que le parent doit avoir sur lui et doit garder sur lui. C'est-à-dire que de ne pas l'autre jour, par exemple, il y a un jeune ado qui était dans une colère noire par rapport à sa mère, ils sont venus me voir tous les deux. Il y a pas le père, il n'est plus dans le circuit. D'ailleurs, le jeune, quand j'ai demandé au jeune, et votre père, où est-ce qu'il est? N'en parlons pas, il n'existe plus. Voilà, c'était sa parole. Hein, donc ça montre bien à quel niveau.
La violence, effectivement.
La violence qu'il avait. Et à un moment donné, il s'est mis à traiter sa mère, à insulter sa mère devant moi. Ceci dit, si je laisse faire ça, alors à la fois je dois lui permettre de dire sa colère, mais si je le laisse insulter sa mère devant moi, ça veut dire que je l'autorise, que j'autorise cette insulte, et donc quelque part je ne reconnais plus l'autorité de la mère. Autorité de la mère qu'elle ne peut pas poser, qu'elle ne sait plus poser, ou qu'elle n'arrive plus à poser.
Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler, je mets des guillemets à ce que je vais vous demander, est-ce qu'on peut parler de séparation réussie du point de vue de l'enfant, du point de vue du traitement de la situation de l'enfant, en sachant qu'un divorce réussi, c'est plutôt contradictoire, parce que ça reste quand même une rupture, ça reste peut-être une vision d'échec pour certains.
Je crois que, alors, si on appelle divorce réussi un divorce où il n'y a pas de souffrance, ça je n'en connais pas. Je n'en ai jamais rencontré. En plus, moi, je reçois souvent des gens en souffrance, des gens en difficulté. Mais par contre, pour moi, un divorce où les gens parviennent à suffisamment, malgré leur colère, malgré leur haine, malgré leur rancœur, arrivent malgré tout à garantir la place à chaque parent auprès de l'enfant, c'est-à-dire dans une situation, le maintien de la relation de l'enfant à chacun de ses parents, je pense que c'est la garantie pour que l'enfant puisse se structurer psychiquement. Je ne parle pas qu'il s'entende comme ça, mais qu'il puisse se structurer. Il sait qu'il a deux pôles, c'est-à-dire quelque part, on vient respecter un phénomène inconscient qui, à mon avis, est capital dans la structuration de l'enfant, c'est la question de la triangulation. Alors que la personne en triangulation, c'est la question de l'enfant, pour se construire, a besoin de pouvoir se raccrocher à ses deux pôles. Et à ses deux pôles d'origine, c'est-à-dire que comme ça, il sait qu'il n'est pas l'enfant que d'un seul. Et c'est ça qui me semble important.
Et justement, dans votre parcours, vous avez rencontré beaucoup de couples qui arrivaient justement à avoir, malgré la souffrance, parce qu'il y a la souffrance aussi du couple, non pas des parents, mais du couple qui se sépare. Il y a en plus l'enfant ou les enfants qui viennent se rajouter à ça. Et justement, des couples qui ont réussi à peut-être à prendre suffisamment de recul ou à pouvoir séparer les deux choses. Écoutez, de manière la plus harmonieuse possible.
D'abord, je pense que la plupart des couples qui y parviennent sont, bien sûr, heureusement, parce que sinon ça serait catastrophique. Hein. On voit des gens. Mon propos n'est pas du tout de stigmatiser le divorce ou les gens qui divorcent. C'est pas du tout ça. L'idée, c'est que dans leur divorce, puisqu'ils ne s'aiment plus, puisqu'ils ne peuvent plus vivre ensemble, ils aient le souci que l'enfant puisse accéder aux deux. Alors, bien évidemment, on voit des gens qui vont faire des démarches pour continuer pour s'organiser ensemble par rapport à la suite, à l'après-divorce. Par exemple, la médiation familiale, qui est un des outils d'accompagnement du conflit familial, l'objectif de la médiation familiale, le principal, c'est de permettre que les gens puissent s'organiser pour que l'enfant puisse accéder à chacun de ses parents dans les meilleures conditions possibles, on va le dire comme ça.
On parle de l'enfant, mais dans une fratrie où il y a plusieurs enfants, est-ce que les problématiques ou les façons de procéder changent, varient quand même, ou ça reste...
C'est une excellente question, parce qu'effectivement, on pourrait tenter de traiter les choses de manière globale. C'est une fratrie, on règle les choses. Alors que dans une fratrie, il y a des individus. Ces individus, ils vivent les choses différemment. Ils n'arrivent pas au même moment dans la vie du couple. Ils n'ont pas la même relation avec l'un, avec l'autre. Donc chaque fois, il faut qu'on prenne en compte à la fois l'importance de que les enfants soient traités de manière, je mets des guillemets pour ma part, égalitaire, mais d'un autre côté, que dans leur personnalité, c'est-à-dire dans leur individualité. Et à partir de là, on voit bien que les choses seront différentes suivant l'âge de l'enfant, suivant le sexe de l'enfant, suivant la
position dans la fratrie.
Mais à la fois l'égalité entre eux, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de différence ou de préférence, entre guillemets, des uns par rapport aux autres, et à côté de ça, que l'individualité de chacun soit prise en compte.
Ouais, excusez-moi. Non, mais c'est vrai que le sujet est vaste. Vous voyez bien sûr régulièrement des familles, des enfants. Juste encore brièvement, on arrive bientôt à la fin. On parle de l'enfant bien sûr dans ce processus, mais le couple lui-même, qu'en est-il? Parce que avec la conscience d'avoir un ou plusieurs enfants qui sont au milieu de tout ça, tout en ayant leur relation de couple à régler.
Quand vous parlez de couple, qu'on s'entende bien. Il y a actuellement une facilité de langage qui est qu'on parle de couple conjugal et de couple parental. Pour moi, le couple parental, ça n'existe pas. Alors, j'espère que je ne vous choque pas en disant ça. Je vais dire que couple, ça vient de copuler. Donc, c'est quelque chose qui lie les deux adultes autour de leur sexualité, autour de la vie sexuelle. Il y a deux parents, d'accord? Même si c'est une même famille, mais il y a deux parents. Donc, pour ce qui est des couples, moi, il me semble que s'ils considèrent que ils peuvent fonctionner individuellement avec l'enfant. L'idée, c'est que malgré tout, la place de l'autre soit respectée. Et là où c'est très grave, là, juste je termine là-dessus parce que ça me semble vraiment très important, ce qui va vraiment mettre en danger le processus identificatoire de l'enfant, le processus de structuration psychique de l'enfant, c'est quand l'enfant est privé de l'un de ses deux parents.
Donc toujours pouvoir maintenir le contact avec les deux. Bien sûr, on pourrait continuer bien plus longtemps. Malheureusement, nous allons devoir nous quitter. Mais pour toutes les questions relatives justement à des séparations, à la place de l'enfant, bien sûr, il y a toujours à Fribourg l'office familial ou la fondation Astram. On peut retrouver les informations sur www.officefamilial.ch ou www.astram.ch/astram-fribourg. Sinon, je rappelle qu'une conférence sera encore donnée le 6 octobre à 19h à l'hôpital des Bourgeois et qui aura comme thématique l'enfant en deuil. Ce n'est pas vous, Jean Gréchès, qui allez la donner, mais d'autres conférenciers. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Radio FR.